Vous écoutez
RMC. RMC, Apolline Matin.
Le journal de Thibaut Texa. Bonjour Thibaut.
Bonjour Apolline, bonjour à tous. Un succès débute et un record pour Kylian Mbappé face au Sénégal. Le capitaine tricolore sonne la révolte, devient le meilleur buteur de l'équipe de France et permet aux Bleus de débuter le mondial de la meilleure des manières. Victoire 3 buts à 1. Après un premier coup de chaud en mai, le thermomètre va encore grimper. Vague de chaleur qui débarque sur le pays. Mauvaise nouvelle, ça va durer. Et un orthophoniste mis en examen et écroué à Béthune pour agression sexuelle sur 5 de ses patientes toutes mineures.
Kylian Mbappé dans l'histoire.
À la chasse au record, il en a décroché un hier soir, désormais meilleur buteur de l'équipe de France. Avec 58 réalisations grâce à un doublé face au Sénégal, victoire 3 buts à 1, le capitaine des Bleus, Florent Germain, est désormais seul.
Oui, à choisir, Kylian Mbappé rêvait de battre le record d'Olivier Giroud en pleine Coupe du Monde. C'était le moment de briller hier à New York avec un doublé retentissant pour le numéro 10 des Bleus.
Je suis très content de pouvoir rentrer un peu plus dans l'histoire de mon pays. C'est toujours quelque chose que j'ai voulu faire. J'ai toujours placé ça au-dessus de tout. Maintenant, je sais pourquoi je suis là pour aider l'équipe. On va continuer à essayer d'écrire la grande page de l'histoire de l'équipe de France.
Les 58 buts de Kylian Mbappé sous le maillot tricolore ont tous été marqués avec Didier Deschamps sur le banc. Le sélectionneur ravi pour son capitaine.
C'est un joueur en homme, même s'il peut ne pas faire un grand match sur une seule action. Il a une capacité à pouvoir faire gagner son équipe. Je suis très content pour lui.
Kylian Mbappé a été acclamé en quittant la pelouse du MetLife Stadium et il a fait vibrer les supporters français.
Kylian, quand c'est la Coupe du Monde, il met sa cape.
Quand il accélère, ça va vite quand même. Ça va plus vite que les autres.
S'il met deux buts par match, nous, on veut bien. Ah ouais,
aussi, hein. Autre record en vue pour Mbappé, celui du nombre de réalisations en Coupe du Monde avec 14 buts, le capitaine des Bleus n'est plus qu'à 2 unités de l'Allemand Miroslav Klose et désormais de l'éternel Lionel Messi.
Et justement, on va l'entendre Lionel Messi dans quelques instants à propos de ce record. Mais d'abord, on va prendre la direction de New York. Jean-Louis Tour, vous êtes sur place ce matin en direct pour RMC. Vous étiez au commentaire de ce premier succès des Bleus dans ce mondial. Victoire 3 buts à 1 face au Sénégal qui a tout de même mis du temps à se dessiner, Jean-Louis.
Oui, c'est le genre de match qui révèle un peu vos personnalités. Si vous êtes optimiste, vous allez retenir la dernière demi-heure et les grandes performances du duo Michael Olise-Kylian Mbappé. Si vous êtes pessimiste, vous aurez surtout relevé les difficultés françaises pendant la première heure. Des Bleus dépassés par les Sénégalais qui se sont procurés deux grosses occasions sans marquer. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour expliquer ce changement de visage? Un ajustement tactique, tout d'abord. Olise qui a échangé de poste avec Ousmane Dembélé, ce qui l'a rapproché du but et donc de Kylian Mbappé. Dembélé, le ballon d'or qui a eu du mal à exister, il a même été le premier attaquant à être remplacé. Et puis Deschamps a su trouver les mots dans le vestiaire pour retirer de la pression à certains qui connaissaient leur premier match de Coupe du Monde. On s'est dit ce qui n'allait pas, même ajouter William Saliba après le match. Malgré ses difficultés, Deschamps a en tout cas conservé ses 4 attaquants. Ce sera probablement le cas encore contre l'Irak à Philadelphie le 22 juin, en espérant, avec un peu d'optimisme, un seul et beau visage des Bleus cette fois.
Jean-Louis Tour, en direct de New York ce matin pour RMC, on vous retrouvera donc. Vous avez noté le rendez-vous pour le prochain match de l'équipe de France, 23h sur RMC lundi face à l'Irak, battu cette nuit 4 buts à 1 par la Norvège qui prend la tête du groupe I à la différence de but. Ça se joue en ce moment du côté de Santa Clara aux États-Unis. L'Autriche mène 1-0 face à la Jordanie. C'est la mi-temps dans ce match du groupe J, dominé ce matin par l'Argentine, vainqueur de l'Algérie grâce à la Pulga. Lionel Messi inscrit les 3 buts de la rencontre, 3-0, et vient égaler le record de l'Allemand Miroslav Klose, 16 buts inscrits en Coupe du Monde en 6 éditions. Un record, mais pas d'effusion de joie pour l'Argentin modeste en conférence de presse.
Être au même niveau que Miroslav Klose, au final, ça ne signifie pas grand-chose. Mbappé aussi est dans le classement. Ce ne sont que des statistiques, rien de plus. C'est une fierté de pouvoir rivaliser avec ces joueurs. En ce moment, on regarde la série documentaire sur Rafael Nadal et je m'identifie beaucoup à lui. Je crois que nous sommes les mêmes sur ce point-là. Je veux toujours donner plus et me sentir bien.
Messi ou Mbappé, le record sera très probablement battu durant cette Coupe du Monde et vous le vivrez sur RMC Radio Officielle de la compétition. Il est 7h05 et c'est le début d'une nouvelle vague de chaleur, la 52e depuis le début des relevés en 1947. Elles sont de plus en plus précoces. Deuxième épisode de l'année alors que nous ne sommes pas encore le 21 juin, c'est inédit. 30 à 35 degrés attendus aujourd'hui sur une grande partie du territoire et ce n'est qu'un début. On prête à atteindre les 40 degrés par endroit dimanche et le gouvernement se donne le route de rappeler les conseils de vigilance.
La ministre de la Santé donne des conseils que nous avons tous en tête, mais qu'on n'applique pas forcément. Boire de l'eau encore plus en cette période, continuer à s'alimenter, mais aussi et surtout en écho à ces morts, ces noyades notamment, qui auraient sans doute pu être évitées il y a 3 semaines, diminuer l'activité physique aux heures les plus chaudes et faire attention pour les baignades. Pour ceux qui cherchent la fraîcheur, le ministère de l'Intérieur les invite d'ailleurs à se mettre à l'eau uniquement dans des zones sécurisées. Le gouvernement appelle aussi à faire attention aux plus fragiles. Les aînés, les SDF, les personnes en situation de handicap ou isolées. Si vous êtes seul, sachez que vous pouvez être inscrit sur les registres des personnes vulnérables de votre ville. Ça permet de prendre de vos nouvelles au besoin.
Et si vous souhaitez faire un plongeon dans les eaux du canal Saint-Martin à Paris, c'est possible. Annonce du maire de la capitale qui regrette l'énergie dépensée par les forces de l'ordre pour empêcher les Parisiens de s'y baigner en mai dernier sous 40 degrés. Des mots et des gestes qui ne sont pas constitutifs du harcèlement sexuel. Justification du tribunal correctionnel de Paris qui a relaxé un animateur du périscolaire hier, jugé pour des propos déplacés et des câlins appuyés imposés à 9 jeunes fillettes de CM2. Suspendu jusqu'ici, l'homme de 47 ans peut désormais reprendre ses activités auprès de jeunes mineurs. Un orthophoniste de 55 ans a lui été mis en examen, placé en détention provisoire à Béthune dans le Pas-de-Calais pour des faits d'agression sexuelle sur mineurs, au moins 5 jeunes patients, Pierre Bazin, qui dénonce des attouchements du praticien.
Oui, tout part d'un signalement effectué par un petit garçon de 5 ans. Il raconte avec ses mots d'enfant que son orthophoniste lui a fait des guilis sur les parties intimes pendant la consultation. Un récit pris très au sérieux puisqu'une plainte est déposée le 10 juin dernier. Très rapidement, le procureur de la République de Béthune ordonne l'interpellation du professionnel de santé âgé d'une 50aine d'années. Il est placé en garde à vue dès le lendemain, notamment pour agression sexuelle sur mineur de 15 ans. Pendant l'audition du suspect, 4 autres jeunes victimes sont identifiées par les enquêteurs. Ce sont des enfants âgés de moins de 10 ans qui décrivent à tour de rôle des violences à caractère sexuel durant des consultations. Jusque-là inconnu des services de la justice, l'orthophoniste a été placé en détention provisoire.
Une nouvelle plainte bientôt déposée contre Jérôme Barella, le principal suspect de l'affaire Liana, visé selon nos confrères de BFM TV par les accusations d'une amie proche de sa fille, une jeune adolescente aujourd'hui âgée de 12 ans, placée auprès de l'ASE qui l'accuse d'agression sexuelle répétée. Son avocate va porter plainte après un signalement oublié par la justice en mars dernier. Des coups de semonce tirés dans la Manche par un navire de guerre russe contre un yacht britannique afin d'éviter une collision, nous dit la Russie. Incident isolé, précise de son côté le ministère de la Défense britannique qui a ouvert une enquête. Et puis c'est le dernier jour du G7 à Évian après le Moyen-Orient et l'Ukraine hier. Il sera question des enjeux de sécurisation autour de l'intelligence artificielle ce mercredi. Donald Trump prolongera lui sa visite par un dîner ce soir à Versailles. Il sera reçu par Emmanuel Macron afin de célébrer les 250 ans de l'indépendance américaine.
C'était le journal de Thibaut Texer et à 7h08, évidemment, vous êtes nombreux à nous appeler pour vivre ensemble et vibrer pour l'équipe des Bleus 3-1 hier face au Sénégal. Yannick est avec nous. Bonjour Yannick.
Bonjour.
Yannick, vous êtes sur le chantier là, maçon à Perpignan.
Oui.
Ah, oui, j'entends, bah, c'est bien parce qu'en plus avec la chaleur, j'imagine que vous avez commencé tôt.
À 6h.
À 6h. Mais ça y est, il fait chaud ou ça va?
Ah oui, oui, commence déjà à faire très chaud, oui.
Il commence à faire très chaud. Yannick, en plus, vous êtes couché tard, parce que vous avez fêté, évidemment, et vibré avec les Bleus. Comment vous l'avez vécu, ce match?
Ah, moi, je le savais. D'ailleurs, si vous regardez sur votre groupe WhatsApp, j'avais pronostiqué 3-1.
Parfait.
Voilà,
je le savais. J'aime beaucoup ce... De toute façon, je le savais. Donc, vous vous y attendiez. Vous saviez qu'il y en aurait un troisième, là, dans les dernières minutes. Vous l'aviez anticipé, ça?
Allô?
Oui, vous m'entendez?
Pardon.
Non, mais je comprends, ça bosse sur le chantier, oui. Ça bosse. Bon, Yannick, alors, dites-moi comment vous l'avez vécu, comment vous l'avez vécu hier, si vous avez enragé au début.
Il est rassuré, surtout.
Ah oui, bien sûr, mais après, c'était sûr, le Sénégal est une grosse équipe quand même, le Sénégal est une très, très grosse équipe, donc c'était sûr.
Non, mais vous êtes confiant, Yannick.
Oui,
parce que la suite,
sûr, hein.
L'Irak, la Norvège, on y va tout droit.
Ah, je vous entends, on vous entend plus, Yannick, sur le chantier. Yannick, ouais, au moins, on l'aura vécu ensemble, ce chantier.
Que Yannick,
voilà. Yannick, rappelez-nous, en tout cas, Yannick qui est donc sur le chantier maçon à Perpignan. Comme lui, vous n'hésitez pas, vous nous appelez au 3216. Il est 7h10 sur RMC. Et on va parler maintenant de l'opération transparence de la justice. C'est ce qu'avait demandé le ministre de la Justice après l'affaire Liana. Et bien, des réunions publiques sont organisées un peu partout en France pour que les Français puissent échanger directement avec les magistrats, avec les juges. Bonjour Marielle Garrigos. Vous êtes la procureure de la République de Bayonne. Vous êtes procureure de la République à Bayonne et vous avez organisé cette rencontre directement avec des Français hier. Les Français ont besoin de voir un visage humain derrière la justice. Voilà votre parti pris. Vous allez nous dire les échanges que vous avez pu avoir avec eux, les réponses que vous avez pu leur apporter. Je vous écoute dans un instant. Il est 7h11.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h14 sur RMC et RMC Story. Et ça fait deux semaines que jour après jour, on découvre ce que le ministre de la Justice appelle des dysfonctionnement et évidemment un désespoir, une colère, une tristesse, une inquiétude qui monte partout en France. Vous avez décidé d'y répondre directement. Marielle Garrigos, bonjour. Vous avez organisé avec la présidence du tribunal judiciaire de Bayonne hier après-midi une rencontre public, direct, avec les Français. L'objectif, répondre aux interrogations, expliquer au public la justice après l'affaire Liana. Est-ce que vous pouvez nous dire comment s'est déroulé cet exercice qui est tout à fait inhabituel ?
Oui, alors, comme vous l'avez dit, c'est la grande émotion suscitée par cette dramatique affaire et les critiques, parfois virulentes, qui ont commencé à fuser à l'encontre de l'institution judiciaire et de la magistrature. Que pour partie, évidemment, nous entendons et nous comprenons, que la présidente du tribunal et moi-même nous sommes dit que, précisément, il fallait y répondre, qu'on ne pouvait pas rester enfermés dans nos tribunaux et qu'il fallait les ouvrir à la société civile pour, effectivement, dialoguer avec eux.
Vous vous êtes retrouvés face à une soixantaine de personnes, c'est ça, qui sont venues échanger avec vous ?
Exactement. Une soixantaine de personnes. La réunion s'est tenue hier dans l'enceinte du tribunal, en salle d'audience, entre midi et 13h30. Mmh. Et c'était des personnes qui,
ils vous demandaient
pour la
quoi,
plupart, avaient participé aux manifestations. Alors, ce qu'ils voulaient, c'était... Alors d'abord, c'était à notre initiative, cette réunion publique. Donc au départ, c'est nous qui souhaitions leur adresser des messages. C'est-à-dire des messages à la fois de compassion, de compréhension, mais aussi, surtout, nous présenter à eux, leur expliquer nos méthodes de travail, nos objectifs, et ce que, là, on mettait en place pour faire en sorte que ce type de drame n'arrive plus, et en tout cas de réduire au maximum le risque que ça se produise.
Quand vous dites, justement, apporter des réponses, mettre en place de nouveaux fonctionnements, est-ce que ça veut dire que depuis deux semaines, il y a des choses que vous avez changées dans votre organisation, dans vos priorités ? Est-ce que, comme l'avait demandé Gérald Darmanin, vous avez remis sur le haut du panier les plaintes spécifiquement qui touchent des enfants ? Comment vous vous êtes réorganisé, j'allais dire ?
Alors absolument, depuis 15 jours, on est effectivement mobilisé de façon exceptionnelle, quelque chose qui peut ressembler vraiment à de la cellule de crise. Quand je dis « on », je pense aux forces de sécurité intérieure, les services d'enquête, les magistrats et les greffiers. Concrètement, on a tous procédé à un recensement des procédures en cours concernant des viols et agressions sur mineurs. Et depuis hier matin... On balaye, on reprend chacune de ces procédures une par une pour les examiner et pour les orienter mieux et pour prendre des décisions chaque fois qu'elles sont déjà mûres pour être prises.
Ça veut dire
ça, c'est
aussi
le plan d'action.
Ça, c'est le plan d'action. Ça veut dire aussi, j'imagine, qu'il y a d'autres affaires en cours que vous allez devoir au minimum faire patienter. Vous ne pourrez pas tout traiter.
Alors effectivement, là, pendant trois semaines, le focus est mis sur ces affaires spécifiques, comme l'a souhaité le ministre. Mais par ailleurs, la vie judiciaire ne s'arrête pas. On continue nos audiences, on continue d'assurer les permanences du parquet, qui, je rappelle, se tiennent 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. La criminalité ne s'arrête pas. Et on continue évidemment de traiter les autres affaires prioritaire, c'est-à-dire toutes les violences contre les personnes et notamment les violences intrafamiliales et conjugales et naturellement la criminalité organisée et la lutte contre les trafics de produits stupéfiants. Mais les autres contentieux qui sont considérés comme étant moins empreints de dangerosité et moins urgents sont laissés de côté, sont mis en suspens jusqu'au 14 juillet.
Mis en suspens, ça veut dire quand même, Marielle Garrigos, que les vols, j'imagine, ce qui n'est pas d'une sorte d'ultra-violence du quotidien, ça va être forcément traité plus tard et ça devra patienter, quoi.
Alors, ce qui devra patienter, ce sont finalement les affaires moins urgentes. Quand je dis moins urgentes, c'est que j'évoquais tout à l'heure la permanence du parquet qui ne s'arrête pas, la permanence des flagrants délits. Donc en réalité, même les infractions de plus basse intensité, entre guillemets, c'est-à-dire par exemple des vols, des escroqueries, à partir du moment où c'est flagrant, de toute façon, et qu'il y a des gardes à vue qui sont prises, parce que ça ne s'arrête pas, hein, enfin non plus dans les autres domaines, eh bien il y a de toute façon des magistrats du parquet qui tiennent cette permanence et qui traitent ces infractions flagrantes. Donc c'est pas qu'on arrête absolument tout à côté, c'est impossible.
Mais est-ce que ça veut dire aussi que ce qui s'est joué hier, vous le renouvellerez ? Est-ce que vous vous dites, en sortant de ce moment d'échange avec les Français, avec le peuple, je rappelle quand même que vous rendez la justice au nom du peuple français, est-ce que ces rencontres, vous vous êtes dit, il faudra en organiser davantage ?
Alors, moi je sais, à titre personnel, c'est vrai que j'y suis quand même très favorable. Je trouve que c'est un exercice très intéressant. On a des échanges nourris. Et je dirais quand même que le travail du procureur, des procureurs, a beaucoup évolué ces dernières années. Nous sommes quand même très souvent en prise avec le public, avec la société civile. On participe quand même beaucoup à de réunions publiques à l'extérieur. Donc c'est un exercice auquel on se livre. Mais c'est vrai que ouvrir les portes du palais, en tout cas de cette façon-là, c'était assez inédit, même si on a quand même d'autres moments dans l'année où le public peut venir. On a nos conseils de juridiction qui sont des moments où on présente en fait le bilan et l'actualité. Donc, de la juridiction.
C'est aussi aux Français de se saisir de ces moments-là, mais vous y avez répondu. Merci d'avoir partagé avec nous cette initiative, Marielle Garrigos. Je rappelle donc que vous êtes procureur de la République à Bayonne. Il est 7h20. Notez que Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale, sera mon invitée à 8h30. Je lui poserai aussi évidemment toutes ces questions sur la justice. C'est l'heure de retrouver Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour Apolline.
Dans un instant, on va remonter l'histoire avec vous. Nabo, on va te finir. Voilà, parmi les insultes qui ont été lancées visiblement par le ministre des Transports à Éric Ciotti, maire de Nice. L'insulte en politique, c'est pas nouveau.
Eh oui, quand la tension monte, les mots dépassent parfois l'inacceptable. Et figurez-vous que deux députés en sont même venus à s'affronter en duel à l'épée.
Vous allez nous le raconter. Il est 7h21. Arnaud Demanche aussi arrive. À tout de suite.
RMC, Apolline Matin.
On va remonter le temps comme chaque jour. Il est 7h22 et c'est l'heure d'Arthur Chevalier. Bonjour Arthur.
Bonjour.
Le maire de Nice, Éric Ciotti, réclame le renvoi du ministre des Transports, Philippe Tabarot. Il a même écrit directement au Premier ministre pour le demander.
Eh oui, d'après Éric Ciotti, Philippe Tabarot l'aurait traité de nabo. Le ministre aurait aussi menacé Ciotti de le faire, je cite, disparaître en lui envoyant des Géorgiens. Hein, ambiance. Dans son courrier au Premier ministre, le maire de Nice dénonce donc une atteinte à la dignité gouvernementale et à la sérénité entre les élus de la nation et les membres de l'exécutif. Selon l'entourage de Philippe Tabarot, donc de l'autre côté, cet échange s'inscrit dans une série d'invectives proférées par Éric Ciotti ces dernières semaines. Tout ça, Apolline, sur fond de rivalité avant les élections sénatoriales de septembre.
On a quand même l'impression que les politiques ont l'insulte de plus en plus facile.
C'est assez vrai, mais entre nous, c'était quand même pas beaucoup mieux avant, il faut bien le dire. Par exemple, sous la Troisième République, quand vous étiez parlementaire, faire des bons mots sur vos adversaires, c'était la base, puisque c'est comme ça que la presse vous remarquait. Et le spécialiste toute catégorie confondue de la médisance, c'était Georges Clemenceau, par exemple, à propos de Félix Faure, un président de la République qui venait de mourir et qu'il méprisait. Clemenceau avait déclaré, en entrant dans le néant, il a dû se sentir chez lui.
Oh bah c'était pas très sympathique ça. L'ancien Premier ministre anglais, Winston Churchill, avait lui aussi visiblement beaucoup de talent pour ridiculiser ses adversaires.
C'était même sa seconde nature, hein, on peut le dire. Après la guerre en 1946, Churchill perd les élections contre un homme de gauche qui s'appelait Clement Attlee, un type qui, entre nous, n'avait pas beaucoup de charisme. Eh bien, Churchill ne va pas le rater puisqu'il va dire de lui, c'est un homme très modeste qui a d'ailleurs toutes les raisons de l'être.
Sous la Ve République, les insultes ont parfois dégénéré en duel.
Mais oui, scène de folie à l'Assemblée nationale. Et c'est assez récent, Apolline, puisque c'est en 1967, le député-maire de Marseille, Gaston Defer, se dispute avec un député gaulliste qui s'appelait René Ribière. Il lui balance un « Taisez-vous, abruti » dans l'hémicycle.
Ah, « Taisez-vous, abruti ».
Taisez-vous, carrément. Donc le député réclame des excuses. Defer refuse de s'excuser. Et là, René Ribière va finalement demander réparation avec un duel à l'épée. Duel qui aura lieu, même si c'était interdit par la loi. Et c'est Defer qui blesse son adversaire en premier. L'arbitre arrête le combat. C'était d'ailleurs le dernier duel de l'histoire de France.
Merci beaucoup Arthur Chevalier. Arnaud Demange nous rejoint.
RMC.
Demange Pirate, le face-à-face.
Exactement.
Et
bonjour.
Bonjour. Face-à-face. Mon invité ce matin, c'est Yael Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée nationale.
Oui, Yael Braun-Pivet qui réagira surtout à l'événement de ce soir à Versailles. Emmanuel Macron reçoit Donald Trump pour les 250 ans de l'indépendance des États-Unis. Voilà, c'est Macron qui a la garde de Papy Zinzin jusqu'à demain. Les autres membres du G7, ils en pouvaient plus. J'espère qu'il va pas faire de gaffe, Trump. Oh, Brigitte, vous qui avez connu Louis XIV, il était sympa. Brigitte, non, allez, 100% de droit de douane. Les États-Unis ont 250 ans. Alain Duhamel était là le jour de l'indépendance. Oui, vous le saviez, Apolline? Il m'a raconté, il m'a dit, oh, jeune chroniqueur! Oui, j'étais envoyé spécial à Philadelphie à l'époque pour un journal révolutionnaire, RMC. Régime monarchique corrompu. J'étais avec Lafayette et George Washington. Lafayette qui avait déclaré à l'époque:
chers adhérents, chers clients, pendant les 3 J Lafayette, les constitutions sont à moins 50%. Oui, moins 50%. Alors n'hésitez pas et prenez votre indépendance avec votre carte Lafayette. Et Louis XVI avait déclaré aussi à l'époque, je parle sous le contrôle d'Arthur Chevalier, il avait déclaré: allez-y, disons les Américains, si on peut faire chier les Anglais, on prend. C'est mon imitation,
oui,
de Louis XVI.
Oui, il avait sans doute
J'ai
cet accent.
J'ai pris un accent canadien parce qu'il paraît que le français du Québec est une conservation du français de l'époque. Ça me bute, ça. À chaque fois, Louis XVI disait à Marie-Antoinette: tabernac, ma blonde, t'as-tu donc pris tes places pour Céline?
Oh, y'a foule! Effectivement, j'adore la musique. Non, si, je l'ouvre pas l'autre.
Parce qu'elle était autrichienne. Oui, ouais. Arthur Chevalier confirme. Il me disait, ce sont des vraies citations, tout ça. Hein. Et c'est très bien imité. Alors, tout à fait autre chose. Un des combats politiques de Yael Braun-Pivet, c'est qu'il y a trop d'hommes candidats à la présidentielle. Bon, déjà, il y a trop de candidats, tout court. 232 candidats, c'est beaucoup trop. Je veux bien qu'on rajoute des femmes, mais en plus, on en a des femmes. Il y a Delphine Bateau et il y a Lydie Massard de l'Union démocratique bretonne.
Vous l'avez bien, celle-là, j'ai remarqué. Oui, j'ai remarqué que vous l'avez.
Alors,
bien.
Si ça peut la consoler, Yael, moi, j'ai voté pour des hommes, mais pas parce que c'était des hommes. Je voterai pas pour un candidat masculiniste.
Français, si vous m'élisez, président, les femmes resteront en talons hauts à la cuisine pour cuisiner des côtes de bœuf. Les motos, les protéines en poudre et les barres de pole dance seront déductibles des impôts. Enfin, nous créerons un ministère de la virilité chargé de rééduquer les hommes qui se font des chignons et de la cuisine moléculaire.
Attention Mathieu, attention. On rigole, mais ce modèle-là, les Américains l'ont élu quand même. Hein. Et on le reçoit à Versailles en plus. Allez, à tout à l'heure.
À tout à l'heure Arnaud, Yael Braun-Pivet, donc à 8h30. Il est 7h27, restez bien avec nous. Dans un instant, la météo et le journal sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Le journal de Victor Pochet. Bonjour Victor.
Bonjour Apolline et bonjour à tous. De très jeunes victimes entendues, crues, mais pas de condamnation. Un animateur du périscolaire parisien relaxé des accusations d'agression sexuelle. Les juges estiment que les témoignages n'étaient pas suffisants. La barre des 40 degrés en approche. Une semaine de canicule commence et la SNCF est contrainte d'annuler des trains mal équipés. Et record sur record au Mondial, Kylian Mbappé, désormais meilleur buteur en bleu après la victoire des Bleus contre le Sénégal. Lionel Messi, co-meilleur buteur en Coupe du Monde et qui a climatisé l'Algérie avec l'Argentine.
Un animateur périscolaire parisien échappe à une condamnation.
Premier procès de cette affaire tentaculaire d'abus sexuels sur des élèves. L'homme de 47 ans a été relaxé hier. Colère des parents des 9 fillettes de CM2 qu'il accuse d'agression et de harcèlement sexuel. Julie Brault, les juges ont bien entendu le témoignage des enfants, mais pour eux, il ne vaut pas sanction.
Oui, selon le tribunal, l'homme de 47 ans a bien eu des propos et des gestes inadaptés alors que 9 fillettes l'accusent d'accolade avec insistance sur la poitrine ou encore de leur avoir livré des récits de viol. Mais après enquête, ces éléments n'apparaissent pas comme objectifs et tangibles selon les juges. Ils estiment que l'animateur aurait dû faire l'objet d'un recadrage, de rappel à l'ordre de la part de sa hiérarchie. Mais son comportement n'est pas pénalement répréhensible, a conclu le président du tribunal. À la sortie de l'audience, les parents d'élèves ont déploré un signal terrible envoyé aux enfants qui ont eu le courage de parler.
Cet animateur a eu des comportements, des propos qui ont abîmé des enfants et qui sont des personnes vulnérables.
Donc nous, on va dire à nos petites filles qu'elles ont bien fait de parler. On leur dira pas que ça a juste permis à cette personne de se faire licencier sans qu'il y ait absolument aucune trace dans son passé de ce qu'il a pu faire aujourd'hui, qui est qualifié comme anormal par tout le monde.
L'animateur, jusqu'ici suspendu par la mairie de Paris, peut, suite à sa relaxe, travailler de nouveau au contact des mineurs.
Un procès qui fait écho à l'affaire Liana, dans laquelle une nouvelle plainte va être déposée par une des meilleures amies de la fille de Jérôme Barella. Elle l'accuse d'agression sexuelle lors d'une soirée pyjama. Un signalement avait déjà été envoyé à la justice en mars, mais n'avait pas eu de suite. Vous avez sûrement déjà eu chaud cette nuit, et c'est une semaine de canicule qui démarre. Près de 50 départements en vigilance jaune aujourd'hui, des températures qui vont frôler les 40 degrés. Et déjà de premières conséquences, la SNCF annule 27 trains demain et vendredi. Des rames trop vieilles et trop mal équipées, selon la spécialiste des transports Patricia Pernès.
Quand il fait chaud, les trains qui sont supprimés tout de suite, c'est ce qu'on appelle les trains corail. C'est des trains un peu anciens qui font Paris-Clermont ou Paris-Toulouse et qui ont des problèmes de climatisation en gros. Quand il fait très chaud, la climatisation n'est pas fiable et donc SNCF, par prudence, préfère annuler. Mais c'est surtout des trains qui sont très anciens. Des trains qui ont 40 ou 50 ans d'âge et qui auraient dû être renouvelés depuis maintenant 2-3 ans, mais le constructeur n'a pas réussi à livrer les trains sont en retard et du coup on se retrouve avec un matériel qui est trop ancien et évidemment les nouvelles rames auront la clim.
Un vote très attendu aujourd'hui sur une mesure polémique au Parlement européen. Vote pour entériner la création de centres de rétention hors d'Europe pour y envoyer des étrangers en situation irrégulière. Ce ne serait pas une obligation, mais une possibilité pour les États membres. Alors la droite française met la pression au gouvernement pour qu'elle soit effectivement appliquée, Romain Cluzel.
Ces centres de rétention dans d'autres pays que l'Union européenne sont indispensables pour l'eurodéputé François-Xavier Bellamy. L'élu LR a porté ce texte et il estime que de tels centres sont une réponse face aux pays qui refusent d'accueillir leurs ressortissants.
Il s'agit de gens déboutés du droit d'asile ou bien auquel un titre de séjour a été refusé. Ces gens-là, pour le coup, ils ne sont pas éligibles à un séjour légal en Europe, ils doivent donc repartir. Ceux qui critiquent ce règlement, en réalité, ne veulent pas lutter contre l'immigration illégale.
Ce règlement en retour sera vraisemblablement adopté avec les voix de la droite et de l'extrême droite, mais ce dispositif de centre divise certains groupes comme Renaissance. La socialiste Chloé Ridel dénonce, elle, une mesure qui va à l'encontre des principes de l'UE.
La droite et l'extrême droite, ils importent en Europe la politique migratoire de Donald Trump. Ce sont des politiques non seulement cruelles, mais en plus inefficaces. C'est simplement une remise en cause de ce qui est au cœur de l'identité européenne, c'est-à-dire le respect des droits fondamentaux de la personne et de la dignité humaine.
L'eurodéputé PS craint que le gouvernement français mette rapidement en place ces mesures. Sur notre antenne le mois dernier, le ministre de l'Europe, Benjamin Haddad, a soutenu ce règlement retour.
Romain Cluzel, le ministre du Commerce, se réjouit du départ de Chine du BHV Paris. La société à l'origine du projet va vendre et les repreneurs veulent évincer le géant chinois de ses murs. Attention, cela ne concerne pas les 7 autres BHV en région où le partenariat se poursuit.
Allez, direction les États-Unis à 7h35.
Avec cette pluie de record au mondial de foot, de buts de Mbappé dans la victoire 3-1 des Bleus contre le Sénégal pour devenir donc Kylian Mbappé le meilleur buteur en équipe de France. Un doublé en deuxième période qui a soulagé des Français inefficaces pendant 60 minutes. Écoutez le diagnostic de l'attaquant Désiré Doué.
Franchement, en première mi-temps, c'était un peu plus brouillon. Il y a eu beaucoup de pertes de balles, je trouve. Un manque de justesse technique par moment. C'est aussi ça, le football, de rentrer dans une grande compétition. On a su élever le curseur en deuxième mi-temps, être beaucoup plus posé avec le ballon et concrétiser les actions qu'on a eues devant le but.
Et la France, ce matin, deuxième de son groupe, parce que la Norvège a marqué plus de buts cette nuit. 4-1 contre l'Irak. L'Irak qui sera le prochain adversaire des Bleus. Un homme, une légende, a encore plus brillé que notre Mbappé national. C'est Lionel Messi et son triplé avec l'Argentine pour battre l'Algérie 3-0. Il égale le record de buts inscrits en Coupe du Monde. Et il a surtout refroidi les centaines de supporters algériens réunis dans la fan zone de Saint-Denis, près de Paris, où vous avez passé la nuit, Lucas Laubert.
Pendant tout le match, les Algériens ont souffert.
3-0 pour l'Argentine.
Mais ce troisième but fut celui de trop. Des dizaines de supporters quittent la fan zone avant même la fin du match, tous abasourdis par le niveau d'un homme.
Léo Messi, il est injouable. Je me suis dit qu'il allait pas en mettre 3, que ça allait pas se passer comme ça quand même. Mais là, faut avouer, ce qu'il a fait ce soir, c'est incroyable, c'est historique.
On peut rien faire face à un mec comme ça, franchement, il a 40 ans bientôt, mais c'est toujours une pile. C'est un truc de ouf.
Avec la défaite et la très petite nuit, le réveil doit être dur ce matin. Après le match, certains, comme Hamza, avaient même déjà abandonné.
Ah, moi, je te dis la vérité, je sors pas de mon lit. Là, on vient de se prendre 3-0.
Et du coup, tu vas pas bosser là tout à l'heure.
Ah non, c'est mort.
Il faut maintenant penser au reste de la compétition, mais malgré ce match à oublier.
Je suis confiant pour la suite.
Car pour Mehdi, c'est le moment ou jamais pour se remettre la tête à l'endroit pour les Fennecs.
Je pense que la Jordanie, c'est un niveau en dessous. L'Autriche, un niveau équitable. C'est là, il faut tout donner. Parce que là, on a 0 point.
Objectif, selon lui, viser la deuxième place, synonyme de qualification directe pour les 16e de finale.
Et ça joue encore ce matin. La Jordanie et l'Autriche font pour l'instant match nul, un partout. Match à suivre en intégralité sur la radio digitale 100% RMC 100% Coupe du Monde.
Et puis le quintet, c'est sur l'hippodrome d'Agen, le passage.
Un départ 18h30, le pronostic de la Dream Team des courses RMC. Son favori, c'est le numéro 14, Kerlas Dave. Son outsider, c'est le numéro 16, Kaiser Chance, le 14 et le 16.
C'était
le
journal de Victor Pochet, les 7h38, et écoutez bien. Oui, oui, ça c'est les zéros qui défilent, et puis effectivement le chiffre de la prime qui monte, parce que c'est le moment de jouer pour gagner votre prime de match sur RMC. Vous savez qu'on rajoute 500 euros à chaque but marqué pendant cette Coupe du Monde, et bien justement, un but vient d'être marqué, on est donc à 60 000 euros à gagner dans cette cagnotte. Retenez bien ce chiffre, parce qu'il y aura un tirage au sort aujourd'hui avant midi, et si vous êtes en mesure de dire combien il y a dans la cagnotte, 60 000 au moment où on se parle, et bien alors c'est vous qui la remporterez. Pour jouer, vous envoyez dès maintenant but au 7-32-16, but au 7-32-16. Vous avez 10 minutes pour vous inscrire, et c'est parti tout de suite à 7h38.
RMC jusqu'à 9h. Apolline Matin.
Apolline de Malherbe.
Il est 7h42. Tiens, n'oubliez pas, on joue, il vous reste 5 minutes et pas une de plus pour vous inscrire, pour envoyer but au 7-32-16 et remporter avant midi aujourd'hui, jour de tirage au sort, les 60 000 euros qu'il y a dans la cagnotte, dans la prime de match. 7h43, il vous reste donc 4 minutes maintenant pour vous inscrire. Vous envoyez but au 7-32-16 sur RMC. Il est 7h43 et évidemment la France a réussi son entrée dans la Coupe du Monde.
C'est fini, c'est victoire fini. De l'équipe de France.
L'ensemble parfaite pour l'équipe de France au niveau du résultat. Victoire 3-1.
Bonjour Eric, Eric Dimeco, notre fil rouge tout au long de la compétition, consultant RMC, ancien international. Victoire 3-1 hier soir des Bleus avec ce doublé de Kylian Mbappé. Ça y est, c'est parti et c'est bien parti.
Oui, moi je suis plutôt... Alors il y aura des débats pendant 5 semaines. Donc est-ce que Didier doit garder 4 attaquants? Est-ce qu'il faut passer à 3? Est-ce qu'il faut mieux de plus? On a vu que c'était compliqué de rentrer dans ce genre de compétition, même pour les grosses nations. Hein, on va en parler de l'Espagne, mais il y en aura d'autres. Première mi-temps poussive, mais moi j'ai plutôt envie, j'écoutais Jean-Louis tout à l'heure, qui disait il y a les optimistes et les pessimistes. Je ferai partie des optimistes ce matin, parce que... On se rend compte que cette équipe de France, elle a un fort potentiel offensif. On se rend compte aussi que Didier, quand il faut changer quelque chose pour transformer le match, il est capable de le faire. Hier soir, c'était le replacement dans l'axe d'Olysé. Voilà, on a un entraîneur expérimenté. On a une équipe avec beaucoup de points forts. Voilà, le jeu est pas super huilé encore. Est-ce qu'il le sera?
C'était un petit peu diesel.
Voilà.
On peut le dire. Ça.
Non, mais il faut le dire, parce que sinon, ce n'est pas crédible.
Mais ensuite, on a eu l'impression qu'une fois qu'il y avait une sorte de déclic qui avait été enclenché, la détermination, le côté chirurgical, la deuxième mi-temps était magnifique.
Oui, c'est pour ça que le déclic, pour moi, vient du replacement d'Olysé derrière Mbappé, qui le rapproche d'Mbappé. Et on a vu que tous les bons ballons, toutes les actions tranchantes viennent de lui. Et puis surtout qu'Mbappé, du coup, se retrouve avec des ballons de but et qu'il est redoutable dans ces moments-là. Donc voilà, moi j'ai envie de retenir ça. Il y aura sûrement un débat sur est-ce qu'on garde ces joueurs-là, ou est-ce que le petit Barcola qui fait une bonne rentrée mérite à un moment donné d'être titulaire. Moi, je veux pas encore faire le débat sur les trois milieux de terrain.
Mais le remplacement de Olysé, c'est intéressant, parce que ça vient aussi souligner le fait que ils ont beau s'entendre dans la vraie vie, Mbappé et Dembélé, ils se trouvent pas sur le terrain.
Alors il y a un vrai problème Dembélé en équipe de France, c'est-à-dire que ses performances sont moyennes, il y a pas de match significatif, même de le remettre dans l'axe derrière Mbappé, il a du mal. Il aura jamais l'équipe qui est faite autour de lui comme au Paris Saint-Germain, parce que il y a Mbappé dans cette équipe là et que l'équipe est faite autour d'Mbappé.
Mais c'est lui le Ballon d'Or.
Et l'autre, par contre, c'est le statut, c'est champion du monde, meilleur buteur de l'équipe de France, et peut-être bientôt meilleur buteur d'une compétition, voire même de plusieurs finales, puisque il a marqué déjà beaucoup de buts dans des finales. Donc, il faut qu'il aille le chercher, ce statut-là, Dembélé. Et là, le match hier soir encore pose beaucoup de questions. Mais moi, je veux pas faire le débat de quatre attaquants, est-ce qu'on passe à trois? Parce
t'en as bien compris. Je vais pas te la poser la question. J'ai bien vu là. Non, celui-là, je veux pas le faire.
Je l'ai entendu hier soir sur l'antenne et ça m'a énervé, donc je voulais insister.
C'est ça. Je me disais, mais là, on sent que ça vient de loin.
On peut pas demander quatre attaquants pendant 8 ans et quand il y en a 4, dire au bout d'un match, mais finalement, il y en a une de trop.
Il faut lui laisser sa chance, quoi. Voilà. Ok. Le match, évidemment, qu'on a aussi suivi cette nuit, Argentine-Algérie, 3-0 avec un triplé de Lionel Messi. Il devient co-meilleur buteur de la coupe du Monde, 16 buts, très impressionnant quand même.
Oui, bah il fait du Messi. Hein. Le talent, ça se perd pas. Alors peut-être qu'il aura un peu moins de jambes au fur et à mesure que la compétition va avancer. Mais lui, c'est simple, il joue dans une équipe qui joue pour lui, qui se sacrifie pour lui ou qui va au combat pour lui. On l'a vu, les Argentins qui sont dédiés à Lionel Messi. Et Messi, il a de bons ballons et quand derrière il a pas besoin de trop travailler, qu'il a de bons ballons proches du but, il est redoutable, quoi. Voilà. Alors bon, il a bénéficié peut-être un peu de largesse algérienne sur ce match-là, mais. Et il sera redoutable, bien sûr.
Il sera redoutable. Alors nous, quand on essaie de se projeter, le prochain match des Bleus, c'est l'Irak. Ce sera lundi à 23h. L'Irak qui a perdu cette nuit 4-1 contre la Norvège. Donc ça, c'est plutôt rassurant.
Oui, bon, après, on n'avait pas besoin de ça pour savoir que l'Irak ne serait pas un des grands de cette compétition-là. Mais non, ça montre peut-être que la Norvège va être redoutable aussi, avec notamment Haaland qui lui aussi a marqué 2 buts.
Qu'est-ce qui se passe avec cette Coupe du Monde-là? On a concentré les stars sur 48 heures, là. On a l'entrée de Mbappé, de Messi, d'Haaland, de Ronaldo ce soir, de Kane avec l'Angleterre. Il y a Modric qui joue encore avec la Croatie. Ils sont tous sur 24 heures.
Oui,
spectacle.
Oh, il y en avait aussi en Espagne, il y en avait des pas mal. Bon, Yamal était remplaçant, mais c'est le tirage au sort et puis c'est surtout ça va aller et plus on va voir les grands joueurs s'exprimer et peut-être nous faire des grosses différences et peut-être que c'est ces joueurs-là, comme l'a fait Messi lors de la dernière Coupe du Monde, qu'il faut rebâcher la balance à l'arrivée.
Alors il y a eu cette nuit un match, je crois qu'il est en train de se terminer.
Autriche-Jordanie, il y a 2-1 pour l'instant, c'est la 82e minute. Autriche-Jordanie, c'est le groupe de l'Argentine et de l'Algérie.
Qu'est-ce qu'il va en sortir de celui-là?
De match ou de groupe?
Ouais, de groupe.
Argentine à l'aise.
Bah, l'Argentine, ouais. Déjà, quand tu gagnes le premier match, c'est beaucoup plus facile. On a été déçus par les Algériens parce que c'est quand même une grande nation du foot. Et puis, nous, on les regarde d'un œil particulier. Parce qu'on est proche. On a beaucoup de joueurs qui ont été formés en France. Et moi, j'ai été étonné, de leur prestation contre l'Argentine. Alors, je sais toujours pas si c'est eux qui ont été faibles ou si c'est l'Argentine qui a été très fort. On le verra par la suite.
Le fils Zidane qui est un peu en faiblesse quand même dans les.
Ouais, voilà. Bon, je voulais pas taper sur l'ambulance. Mais ouais, il s'est un peu déchiré sur les deux premiers buts. Ouais.
Donc on verra évidemment pour la suite. Merci à Eric qui sera avec nous évidemment pour vivre cette Coupe du Monde sur RMC, ancien international français et consultant RMC. Je vous rappelle bien sûr qu'RMC est la radio officielle de la Coupe du Monde. À retrouver de 15h à 5h du matin en direct et à tout moment sur la radio digitale et l'application ou le site RMC. Il est 7h49 et c'est l'heure de la voix de droite. La voix de droite, c'est Louis Sarkozy. Bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
La Corse doit-elle appliquer les mêmes lois que l'ensemble de la République française? Les députés ont commencé à en discuter hier. Vous en pensez quoi, vous?
Je vais peut-être vous surprendre. Moi, je suis plus pour un peu plus d'autonomie pour la Corse. Vive la Corse, vive la Corse libre, d'ailleurs, comme toutes les autres régions de France.
Les données, en fait,
donner un peu plus d'autonomie,
quoi.
C'est pas les détacher de la France.
Vous allez nous le dire dans un instant, Louis Sarkozy. Il est 7h49 sur RMC.
RMC, Apolline Matin.
Dans un instant, la voix de droite, mais d'abord le bonus, Mathieu, avec le film Michael qui bat des records.
Eh oui, Michael, le roi de la pop, continue de régner après 17 ans après sa mort. Le biopic approche du milliard de dollars de recettes dans le monde. Il bat surtout un record. Il dépasse le film Bohemian Rhapsody consacré à Freddie Mercury. C'était en 2018, moins de 10 ans après. C'est Michael qui chippe le trône à Queen, si vous l'avez en France. Aussi, le film bat des records. C'est devenu le biopic le plus vu de l'histoire des salles françaises devant La Môme, Marion Cotillard, son interprétation d'Edith Piaf. Alors Michael, ça reste une version très naïve de la vie de Michael Jackson, parfaitement interprétée par son neveu, c'est lui que vous entendez. La ressemblance, la voix, c'est très réussi, mais ça oublie les zones d'ombre, les affaires. Mais Netflix y revient en ce moment dans une série documentaire sur le procès de 2005 pour agression sexuelle sur mineur. Ça s'appelle Michael Jackson, le verdict.
RMC, Apolline Matin,
voix de gauche,
voix de droite.
droite. Louis Sarkozy, bonjour Louis.
Bonjour Apolline.
Les députés ont commencé hier soir l'examen du projet de loi constitutionnelle sur l'autonomie de la Corse. L'objectif, c'est de permettre à l'île d'adopter certaines lois, certains règlements, assez spécificités, comme exact. On dit en Corse. Vous y êtes favorable?
Oui, j'y suis favorable. La Corse a son identité, son histoire, sa culture. Lui rendre un peu plus d'autonomie, ce n'est pas la détacher de la France. C'est au contraire lui permettre d'être française à sa manière. Et c'est la même chose d'ailleurs pour toutes les autres régions de France. Il faut inaugurer l'ère fédérative.
Oui, enfin, ça veut dire quand même que la Corse va pouvoir adapter ses propres lois sur le travail, les écoles, même les impôts.
Bien sûr, dans certains cas. Prenons les exemples qui existent. La Suisse. Chaque canton fixe son propre taux d'impôt sur le revenu. Quel est le résultat? Émulation, responsabilité, transparence. Le citoyen suisse sait exactement où va son argent et il peut comparer canton par canton. Aux États-Unis, l'impôt fédéral est complété par un impôt d'État qui varie du simple au triple. La Floride n'en a aucun. La Californie a un des plus lourds taux du monde libre. L'école aussi, aux États-Unis, chaque État, parfois même chaque district, fixe ses programmes, ses calendriers, ses méthodes. En Suisse, l'instruction publique est aussi entièrement de la compétence cantonale. Le travail, alors là, il faut faire un peu plus attention. On garde un socle national, salaire minimum, droit du licenciement, droits sociaux, mais on peut imaginer des dispositifs d'apprentissage adaptés au tissu économique local. Concrètement, la Corse pourrait moduler ses impôts locaux, adapter ses programmes scolaires aux réalités linguistiques et culturelles de l'île, fixer ses propres règles d'urbanisme, célébrer sa langue, célébrer sa culture. La Corse, comme la Vendée, le Pays Basque, la Normandie, elles sont belles ces régions quand elles sont elles-mêmes.
Marine Le Pen dit que ce texte est, je cite, « dangereux parce qu'il crée une rupture avec la France ». Et vous n'êtes pas d'accord avec ça ?
Caricature. La Suisse et les États-Unis sont deux des plus grands pays du monde, deux démocraties solides, deux puissances fédéralistes. Personne ne les soupçonne d'être sérieusement désunis, en tout cas pas plus que nous. Et c'est là toute l'ironie de notre histoire. Madame Le Pen, la France n'a jamais été aussi centralisée qu'aujourd'hui. Et pourtant, elle n'a jamais été aussi désunie, aussi fragmentée, aussi méfiante d'elle-même. C'est ça qui désunit la France, Madame Le Pen.
Un pays où pour aller en train de Bordeaux à Lyon, on passe par Paris, toujours par Paris, ça c'est pour vous un problème.
Mais c'est un scandale, et c'est vrai d'ailleurs pour les gilets jaunes comme pour les plans ferroviaires, toujours la centralisation. Le principe en vérité est très simple, plus un élu est proche de ses électeurs, plus il doit avoir de pouvoir sur leur vie. Le maire, qu'on croise au marché le samedi, qu'on apostrophe à la sortie de l'école, doit pouvoir décider de beaucoup plus. Le président de région, presque autant. Le ministre à Paris, beaucoup moins, et sur des matières strictement régaliennes. C'est l'inversion de la pyramide. Les élus locaux doivent être des apôtres de la proximité, rendant des comptes en permanence devant les urnes. Pas des bureaucrates déracinés, abrités derrière leurs services et leurs notes, qui n'ont jamais marché dans les rues de ceux qu'ils administrent.
Mais attendez, Louis Sarkozy, la Corse, c'est aussi une histoire violente. 30 ans d'attentats, l'assassinat du préfet Erignac en 98, donner plus de pouvoir aujourd'hui, est-ce que c'est pas prendre un risque ?
Je pense exactement le contraire. C'est précisément parce qu'on a traité les Corses pendant un demi-siècle comme des sujets suspects qu'on a entretenu cette rancœur pendant des décennies. La République leur a envoyé des préfets, des magistrats, des décisions venues d'ailleurs. Elle leur a donné l'autorité, mais presque jamais la confiance. Et la défiance appelle la défiance. Or, regardez les faits aujourd'hui. Aux dernières élections territoriales, les Corses ont massivement voté pour les nationalistes, des élus démocratiques, pacifiques, qui défendent leur identité dans les urnes et plus à la Kalachnikov. Leur réponse a changé. C'est à nous maintenant de changer de la nôtre.
Concrètement, qu'est-ce que vous attendez des députés là sur le projet de loi ?
Déjà, j'aimerais que ce projet passe sans amendement de Pacanti, sans tortillage jacobin, sans réserve préfectorale déguisée. La Corse est un cas pilote. Soit on a le courage de lui confier les clés de sa propre maison, comme on les confie à un adulte, soit on continue à la traiter en mineur depuis Paris et on s'étonnera encore 20 ans que la défiance monte. Proudhon le disait déjà, les Girondins, dans leur fédéralisme, cherchaient à concilier la liberté communale et la liberté nationale. C'est, je cite, « l'éternel problème des gouvernements libres ». À nous, ce siècle-ci, de le résoudre. La France ne sera pas plus forte, parce qu'elle sera plus uniforme. Elle sera plus forte le jour où elle aura enfin cessé de se méfier de ses propres enfants.
Merci Louis Sarkozy, un véritable plaidoyer pour la Corse libre. Demain, ce sera la voix de gauche, Cécile Duflot, sur RMC. Il est 7h56, dans un instant, la météo, très forte vague de chaleur qui arrive. Et on y reviendra d'ailleurs aussi dans le journal de 8h. Après le journal, l'économie, c'est avec vous Emmanuel Le Chip. Bonjour,
oui.
Emmanuel.
Bonjour à tous.
La Banque de France revoit à la baisse les prévisions de croissance.
Alors, coup de chaud sur le thermomètre, mais je peux vous dire, coup de froid sur les prévisions de croissance, c'est très rare. Une institution officielle révise autant à la baisse ses perspectives de croissance.
Et vous nous le dites dans un instant, il est 7h56.
RMC jusqu'à 9h.
Apolline Matin.